Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Heureusement en France. Vous êtes sur Radio Campus 106,6. Aujourd'hui, pour animer cette émission, nous sommes quatre. Il y a moi-même François, je suis accompagné de Pierre-Yves.
Salut à tous.
De Reynald.
Bonsoir à tous.
Et de Dominique.
Salut à toutes.
Aujourd'hui, nous avons un invité avec nous autour de cette table qui est virtuelle.
Ça fait tellement longtemps, ça fait bizarre.
C'est vrai. Et nous accueillons aujourd'hui Sylvain Machen.
Salut.
Aujourd'hui aurait dû avoir lieu cette grande édition de Ludinor, ce festival sur le jeu de société et même plus généralement sur les activités ludiques, qui se serait terminé là, quasiment à l'instant. Là, vous seriez peut-être en train de commencer à ranger les chaises.
On serait sur les rotules en train de se dire « Oula, est-ce que je vais trouver de l'énergie pour ranger tout ce qui est là ?» Mais avec beaucoup de plaisir, normalement.
Alors, la dernière édition qui a eu lieu, c'était en 2019, sachant que l'année dernière et cette année, donc, elles ont été annulées. Il y a quand même eu des événements qui ont eu lieu, on en parlera tout à l'heure. Or, comment est-ce qu'on peut décrire ce salon Ludinor, qui est l'un des plus gros événements ludiques dans les Hauts-de-France ?
C'est un événement qui met le jeu au centre de tout. C'est-à-dire que, contrairement à d'autres événements ludiques où tout est réparti par stand, nous, ce que j'ai choisi de faire, c'était de faire en sorte que le visiteur qui rentre dans un espace puisse facilement trouver des jeux qui sont soit à son goût, soit à son niveau, enfin, qu'il se sente à l'aise dans un espace et qu'il se dise, si j'ai joué à un jeu sur une table, je peux aller à la table d'à côté, ça devrait coller avec les types de jeux que j'apprécie. Donc, c'est pour ça qu'on a réparti en différents espaces où on a effectivement du jeu ambiance, du jeu pour enfants, du jeu familial et du jeu stratégie pour les core gamers, tout comme des jeux de rôle, un peu de grandeur nature depuis quelques années et du jeu en extérieur, genre Molki. Donc, on a essayé de couvrir à peu près l'ensemble des activités ludiques et on essaie de développer encore les univers qu'on ne connaît pas encore. Donc, tout ce qu'on fait aussi de l'escape game, par exemple. Enfin, il y a plein de choses qu'on a déployées sur Ludinor pour montrer tout cet éventail.
Alors, tout ça se passe à Mont-Saint-Barœul. Et c'est vrai que vous avez commencé à vous étendre à peu près partout dans la ville au fur et à mesure de s'agrandir, à tel point qu'il fallait des fois des bus pour aller entre chaque site, c'est ça ?
Ah, ça c'était un gros cap pour Ludinor le jour où on est passé sur deux sites. En fait, les dernières éditions sur le Fort de Mont, c'était devenu vraiment trop serré. On avait eu quelques impacts, une édition où on a eu une grosse tempête et où les structures temporaires, on avait dû les vider et ça avait rendu la chose un peu compliquée. Donc on s'est rendu à l'évidence qu'il fallait essayer de se développer. Et un peu à l'image du festival Le Flip à Parthenay, on s'est dit pourquoi pas s'impliquer encore plus dans toute la ville. C'est comme ça qu'on a créé le site de Montaigne, un site qu'on a voulu rendre attractif, notamment en mettant les jeux les plus attendus par les core gamers. Donc depuis 2016, je crois, on a effectivement des bus Transpol qui font la liaison entre les deux sites. Mais depuis ce temps-là, on n'a plus de tempête, on a du beau temps, et les gens ils se baladent d'un site vers l'autre.
Merci Transpol.
C'est donc à souligner la participation de la mairie de Mont-Saint-Barœul, effectivement, qui nous aide beaucoup sur ça. On a tendance à dire qu'on emprunte tout leur mobilier, le seul truc qu'on n'a pas réussi à emprunter encore, c'est le bureau du maire.
Mais bientôt, on va faire des tournois de Keyforge dans le bureau du maire, je le sens bien. Tous autour de la table, même toi Pierre-Yves, ouais. Tu as déjà participé à Ludinor ?
Alors ça fait très très longtemps, parce que j'ai quitté l'île, ça fait plus de 10 ans. Alors, je sais pas, à l'époque, ça s'appelait déjà Ludinor, mais il me semble y avoir participé, oui, une fois.
Les deux premières éditions, ça s'appelait juste Salon du jeu et de la création. C'était organisé par l'Étoile du jeu, l'association ludique de Mont-Saint-Barœul. C'est à partir de 2011 qu'on a commencé à l'appeler Ludinor.
Alors, ça permet à Ludinor de faire découvrir ses activités ludiques auprès du grand public, puisqu'on a tout type de joueurs qui viennent, hein, de ceux qui ne connaissent à peine, qui connaissent juste le Monopoly, jusqu'à ceux qui ont tellement de jeux dans leurs étagères qui n'ont même pas pu jouer à la moitié.
Qui viennent pour les vendre depuis quelques
ah
années.
Oui.
Oui, on a la bourse aux jeux depuis quelques années, effectivement. Ça, c'est aussi un des grands plaisirs des éditeurs de jeux, c'est qu'on arrive à amener sur le festival des gens qui sont en découverte complète. C'est-à-dire que ça leur fait plaisir, ça leur dans pas mal d'autres festivals, ils retrouvent toujours les mêmes têtes. Et au bout d'un moment, ça peut avoir un petit côté lassant. Apparemment, sur l'île Nord, on arrive encore à drainer régulièrement un public qui est en quête de découverte. Et pour certaines personnes, c'est leur sortie ludique de l'année. Et par conséquent, ils gardent encore cette fraîcheur-là. Ouais, forcément
c'est ce que j'allais dire. Je connais des gens, des familles qui ne viennent, qui attendent Ludinorf, qui ont connu, je les aurais fait connaître il y a quelques années. Ils attendent, ils viennent, ils testent des jeux, ils les achètent et ils attendent l'année prochaine. Ils n'achètent pas d'autres jeux pendant le reste de l'année. Ils viennent que pour ça.
J'ai une image en tête quand j'étais encore à l'accueil de Ludinorf où j'ai vu toute la famille arriver, chacun avec son gobelet attaché à la ceinture. Des différentes éditions, ça fait plaisir à voir quoi.
Et ils étaient tellement fans qu'ils n'ont pas osé le laver depuis, donc
on va pas abuser non plus.
Question très importante d'ailleurs, moi je dois avoir les gobelets de presque toutes les éditions, et du coup cette année il n'y a pas eu de gobelets commandés j'imagine, et peut-être l'année dernière, est-ce qu'il y a moyen d'en avoir, je ne sais pas.
Je peux vous donner une exclue, mais il y a de fortes chances que les gobelets qui seront utilisés lors de la prochaine édition, que j'espère être 2022, auront la mention 2020 dessus.
Et barré à la main.
C'est logique, il faut bien récupérer.
Non, on ne s'amusera pas à les corriger. Bon, mais voilà, les gobelets sont prêts, mais ils attendent juste de pouvoir avoir le droit de sortir.
En nombre de fréquentations, donc à la fois le public, je veux dire grand public et puis public de connaisseurs, c'est quoi l'évolution sur le Dinor au cours des dernières années ?
Le pic, on l'a connu pour les 10 ans, pour la 10e édition, c'était 12 500 spectateurs. J'ai plus le ouais. Nombre exact.
Mais ouais, ça fait déjà beaucoup de monde.
Oui, on avait fait une soirée spéciale le vendredi soir aussi pour accueillir justement des VIP, des gens qui avaient prévu de passer une soirée un peu en public restreint pour encore plus profiter des installations et puis avec quelques jeux en avant-première. Donc c'est pour ça aussi qu'on avait un peu plus de monde sur cette édition-là parce que c'était la 10e et forcément les gens se sont un peu plus motivés. Après, ça n'a pas beaucoup reculé hein, sur la 11e édition. Je crois qu'on était autour de 11 000. Donc on reste sur un niveau équivalent. Sachant qu'on est parti du fort où la première édition où j'y étais, donc c'était en 2010, donc c'était pas encore Ludinor, on avait fait 700 personnes.
Donc, ah oui, ça fait une belle sacrée augmentation. Bravo.
Donc voilà, donc en 2010, ouais, 700 personnes, en 2018, 12
000. Là, je peux rejoindre ce que tu dis, parce que je me rappelle la toute première édition de Ludinor que j'ai fait, on pouvait rester tout le week-end dans la salle du fort, sans aucun problème, on trouvait toujours une table pour s'asseoir et jouer. Et les dernières années, si t'arrives pas à l'avance, et même à l'avance, t'as déjà une queue phénoménale pour déjà s'installer aux tables. T'as une très belle évolution sur l'Ulinor.
Ouais, mais après, ça c'est devenu du coup un défaut sur lequel on travaille chaque année, de manière à ce que ce ressenti soit de moins en moins vrai. Le jour où on a basculé du site de Fort-de-Mons vers deux sites équivalents, Montagne et Fort-de-Mons, là, on a eu beaucoup de retours positifs sur le fait que ça s'était aéré et qu'on retrouvait un peu de plaisir on retrouvait beaucoup de plaisir à revenir à Ludinor. Je pense qu'on arrive sur un plateau à 11 000 personnes à peu près et qui nous conviendra bien parce que je pense que les installations sont bien prévues pour ça, quoi.
Il faut aussi souligner qu'il y a de plus en plus de festivals qui s'organisent à travers toute la France. Donc ça, peut-être que ça répartit un petit peu la charge également.
Après, en même temps, c'est le défaut, on va dire, des très bons salons qui drainent des personnes. Parce que voilà, c'est un salon qui attire du monde et tu peux pas y faire autrement. Après,
Au niveau du calendrier, on est à un mois de Cannes. Quelque part, on donne de la visibilité aux jeux qui sont sortis à Cannes dans la moitié nord. Et puis, en termes de festival belge, en dehors d'une année sur deux, le Trolls et Légendes qui a lieu à week-end de Pâques, il n'y a pas forcément beaucoup d'activités aussi en Belgique sur le début d'année, plus sur la fin. Quelque part, on est aussi un des plus grands festivals belges. Donc, on draine aussi ce public-là. Et quelques Britanniques, de temps en temps.
Ouais, ça devient vraiment énorme. Alors, l'édition de 2020 allait avoir combien de sites cette fois-ci ? Puisque en 2019, il y en avait 3-4, même peut-être plus.
On devait rester sur ce niveau-là, je pense 4 sites maximum, même si c'est, on va dire, 2 sites majeurs. Le site jeu de rôle qui commençait à vraiment pas mal de prendre d'ampleur aussi, et plus quelques salles, notamment pour de l'escape game ou des animations de grande ampleur. On fait toujours une année où on s'agrandit et une année de stabilisation, globalement. Donc là, on est sur 2 ans de stabilisation.
Il n'y a pas eu que du jeu de société, il y a également eu de la musique lors de Ludinor. Un des seuls groupes qui a joué, c'était Junebug.
Junebug, c'est ça.
Junebug, oui.
C'était pour animer la soirée du off. Donc c'était passé sous chapiteau près du Fort de Mont, c'était plutôt cool.
Bah, je vous propose, pour ceux qui ne connaissent pas, de s'écouter un peu de June Bug avec Not So Very Fishy Tale. C'était June Bug avec Not So Very Fishy Tale, un groupe qui a joué dans ce grand festival qui est Ludinor. Et nous accueillons d'ailleurs Sylvain Machène autour de cette table. Et quelque chose qu'on demande à tous les invités de l'émission, c'est bien sûr de nous décrire un peu ton parcours. Comment est-ce qu'on devient comme ça un fan de jeux de société, mais également un des plus gros membres de la Fée des Jeux, puisque tu es président de la Fée des Jeux.
J'ai laissé la place en 2018.
Alors, explique-nous, comment est-ce que on commence dans cet univers?
Bah, je pense que, comme tout le monde, on joue un peu avec les jeux que les parents nous offrent à Noël. Potentiellement, on joue avec les grands-parents aussi. Enfin, moi, je me souviens que je pense que les premiers jeux que j'ai joués, ça devait être les échecs et la belote avec mon grand-père. Mais après, derrière, on joue à d'autres jeux. Alors bon, ma vie personnelle avec le jeu, c'est qu'au bout d'un moment, ben, je me suis lassé de tout ce qui était Docteur Maboule, Super Défi et Monopoly. J'ai eu une coupure avec les jeux de société jusqu'à ce que mon parcours étudiant me ramène sur l'île et me retrouve à faire des soirées jeux, notamment autour du loup-garou. Et c'est là où j'ai commencé à découvrir qu'en fait, il y avait d'autres jeux, des jeux de société qu'on appelle modernes. L'avantage du loup-garou, c'est quand t'es éliminé, t'as plus rien à faire. Et donc, du coup, tu peux aller rejoindre les autres gens éliminés et découvrir d'autres jeux. Alors, à l'époque, ça devait être Elixir, ça devait être Munchkin, ça devait être Time's Up, Jungle Speed et j'en passe. Et puis, tu croises de plus en plus de monde, tu commences à jouer de plus en plus et là, on te dit, mais en fait, il existe des salons du jeu de jeu. Sérieux, il y a des salons de jeu. Voilà. Tu découvres. Moi, mon premier salon, c'était en 2009, c'était à Montreuil, en banlieue parisienne. Et ma première dédicace, c'était Pierrot sur Dystone. Je le connaissais pas. Et comme je jouais quasiment pas, il m'a demandé qu'est-ce que tu veux comme personnage. J'ai dit, je joue qu'au loup-garou. Il m'a dit, je te fais un shérif loup-garou si tu veux.
Normal.
Au fur et à mesure, tu rencontres de plus en plus de personnes. Tu agrandis tes connaissances dans le monde du jeu. Et puis, tu te rends compte de tous les bienfaits que ça peut t'apporter. Tu te rends compte des bienfaits que ça apporte à ton entourage et tu te dis mais ça serait dommage de pas faire en profiter encore plus les gens quoi. Tu commences. Moi j'ai fait quelques animations jeux dans quelques lieux lillois. Je l'ai fait au Biplan qui malheureusement désormais n'existe plus. J'ai aussi on a fait jouer notamment au Troll et Petit Lutin plusieurs soirées jeux comme ça. Et après, j'ai découvert l'Étoile du Jeu qui justement se lançait sur sa deuxième édition du Salon du Jeu et de la Création. C'est comme ça que j'ai rejoint l'asso et que j'ai vu qu'il y avait un bel événement qui commençait à naître sur la métropole lilloise. Et je me suis impliqué dedans, de manière à me dire, il y a des choses à faire quand même, ça peut être cool d'avoir un événement dans les Hauts-de-France. Enfin, dans les Hauts-de-France, maintenant, mais avant, dans le Nord-Pas-de-Calais. Au sein des organisateurs, c'est vraiment, on se sent comme dans une famille et... Du coup, on prend plaisir à chaque fois de se réunir et de dire qu'est-ce qu'on fait cette année. Donc chacun a son identité, c'est-à-dire que tu auras la personne qui va avoir plein d'idées et les autres qui vont être plus rationnels dire ouais. Alors du coup, il faudra peut-être réfléchir à comment on le fait. Du coup, il y a un équilibre global qui se crée, qui est plutôt sympathique. Je sais que dans pas mal d'autres de festivals, ça se joue sur peu de personnes. Chez nous, depuis longtemps, c'est beaucoup de monde qui gère l'Udinor et on arrive, je pense, à retransmettre ce côté convivial au niveau de l'organisation auprès des visiteurs qui se rendent à l'Udinor. Et c'est comme ça aussi qu'on arrive à maintenir un staff suffisant chaque année. Parce que finalement, il y a des gens qui découvrent l'Udinor qui se disent si cet événement doit se pérenniser, il faut qu'il y ait des bonnes âmes qui arrivent. Parce que forcément, on reste tous des bénévoles et forcément, il y a des gens qui vont passer à autre chose. Soit pour des raisons de travail ou familiales, enfin bref, il faut qu'il y ait du renouvellement au niveau de l'organisation et on arrive toujours à retrouver les personnes qui veulent bien rejoindre l'organisation.
Comme je le dis souvent, quand au début tu vas dans des festivals en tant que spectateur, ou enfin c'est un visiteur, mais quand tu franchis la barrière que devient bénévole, tu as du mal à revenir en arrière. Et tout à l'heure, on parlait de la population du public, de la taille du public. Est-ce que tu as une idée aussi de l'évolution du nombre de bénévoles par rapport à peu près aux premières années, jusqu'aux dernières ?
Vous avez dû imprimer combien de t-shirts jaunes en plus ?
Je pense que les premières... Alors, en tout cas, je sais qu'en 2010, c'est la première fois que j'ai participé, on faisait jouer nos jeux perso. Donc, j'ai encore quelques boîtes de jeux chez moi avec une étiquette dedans pour marquer que c'était bien mon jeu. Chose qui serait plus concevable maintenant, hein, parce que on n'est jamais à l'abri d'un désastre. Et on devait être, je pense, entre 20 et 30 personnes. Pour gérer aussi bien les explications de règles que gérer la restauration et l'accueil. Donc ça, c'était en 2010. En 2019, sur la dernière édition, on était un peu plus de 400 bénévoles.
C'est énorme.
Ce qui fait qu'en fait, quand on fait les week-ends de révision de règles, parce qu'en gros, sur le mois de mars, alors le dernier week-end, c'est forcément l'Udinor, mais les trois week-ends qui précèdent, on ouvre une salle à Mont-Saint-Barœul pour faire venir les bénévoles pour qu'ils puissent jouer au jeu qu'ils auront à expliquer à la fin du mois. Et du coup, les trois week-ends qui précèdent, vu le nombre de bénévoles, ça ressemble un petit peu au festival qu'on avait organisé en 2010.
Et ça, c'est quelque chose que le public, en tant que visiteur, dont il ne se rend pas forcément compte. Il y a quelqu'un qui vient lui, avec un t-shirt jaune ou d'une autre couleur, qui vient lui expliquer un jeu. Il ne se rend pas compte que cette personne, elle ne connaît pas forcément tous les jeux par cœur, qu'elle a dû faire des parties, prendre sur son temps libre les semaines d'avant pour apprendre.
Ça, c'est la face cachée de l'iceberg.
Dans ce que tu as dit avant, il y a quelque chose aussi qui me fait noter par rapport à la taille, l'évolution des festivals, pas seulement l'idée. Ludinorm et tout, c'est que au début, donc vous aviez vos propres jeux, puis ensuite vous demandez aux éditeurs de vous envoyer des jeux.
Ouais.
Et je pense que tu sais que ton salon est à un certain niveau quand tu n'as même plus besoin de demander, c'est les éditeurs qui te demandent s'ils peuvent t'envoyer des jeux ou venir. Et là, tu dis, ah, on a peut-être franchi un cap.
Oui, ça fait partie des, ça fait partie de levier. Après, on garde quand même une communication officielle avec les éditeurs. On a quand même un travail parfois de démarchage pour certains éditeurs. Quand même.
C'est ce que j'aime bien aussi à Ludinor et dans d'autres salons, c'est que tu vois les éditeurs que tu suis de loin, etc. Enfin, tu peux venir, tu vois les auteurs, tu vois les illustrateurs, etc. Tu peux discuter à la même table et partager une bière avec des grands éditeurs et des grands auteurs.
Tu fais bien préciser illustrateur parce que ça fait partie des choses qu'on met en avant à Ludinor sur le fait que. On a une exposition qui s'appelle Illustrator, qui est, alors je sais plus quand est-ce qu'on l'a démarré, je crois que ça devait être en 2015, où tous les ans, en fait, non seulement on met en valeur le travail dans le monde du jeu, mais aussi dans leurs autres univers, qui peuvent être la BD ou d'autres domaines. Et à chaque fois, on met en avant le travail de l'auteur de l'affiche de l'année, plus 3 ou 4 autres illustrateurs. Qui potentiellement peuvent devenir les illustrateurs de l'affiche d'après. Ça, c'est une chose qu'on apprécie mettre en avant. Il y a cet aspect-là culturel du jeu qu'on essaie de mettre en avant et qui nous sert. Parce que du coup, cette exposition, elle ne fait pas que vivre pendant Ludinor, elle est aussi diffusée un peu partout, alors, principalement dans la région, mais aussi sur d'autres festivals en France, notamment à Partenay. Donc, c'est un bon moyen de rayonner. Plus large. Je sais que par exemple, cette exposition Illustrator, elle a été diffusée au Salon du Livre à Bondu. Donc, c'est un gros Salon du Livre, je crois que c'est 40 000 visiteurs. Et ça a permis, et le Salon du Livre à Bondu, dans le calendrier, c'est une semaine ou 15 jours avant nous. Et ben, ça a permis de présenter le jeu de société moderne à des gens qui étaient venus pour découvrir des livres.
De toute façon, il y a une jonction effectivement entre le monde de l'édition des livres, de l'édition des jeux, pas que les jeux de rôle, mais les jeux en particulier. On va pas refaire un débat sur la taxe, la TVA, etc. Est-ce que les magasins de jeux vidéo, de jeux de société sont aussi des librairies compagnie? Ça sera pour une autre émission.
On pourrait faire un débat sur les boutiques qui ont le droit d'ouvrir et qui n'ont pas le droit d'ouvrir.
Exactement.
Par contre, justement, en parlant des illustrateurs, il faut aussi penser que les illustrateurs étaient souvent utilisés pour les livres de jeux de rôle avec les illustrations à l'intérieur des pages, en plus de la couverture. Et que maintenant, tu as beaucoup de livrets de règles qui sont... avant, c'était très sommaire, c'était limite, il fallait trouver les traductions, parce qu'on avait les jeux en allemand, etc. Maintenant, les livrets de règles des jeux de société modernes sont ultra graphiquement développés, tu as des illustrations partout, et les illustrateurs sont vraiment des artistes à part entière.
Mais complètement, et puis de toute façon, c'est le travail de l'éditeur de faire le jeu le plus abouti possible, parce que vu la masse de jeux édités chaque année... faut pas laisser beaucoup de place à l'erreur et pour réussir à avoir la visibilité parce que on a beau dire que le jeu de société se développe, la partie production paraît se développer plus rapidement que la partie consommation. Voilà, faut pas dédaigner des détails sur le jeu pour avoir un jeu qui réussit.
C'est vrai que la première chose qui te donne envie de jouer à un jeu, c'est son illustration, mine de rien.
C'est la couverture, c'est la boîte.
En plus, tu as une correspondance graphique qui est avec le jeu, la façon de jouer, le gameplay, t'as tout qui correspond ensemble, qui fait que si tu as la plus belle des règles au monde et que tu as rien qui correspond graphiquement au jeu, tu vas peut-être sortir du thème, ou alors tu vas peut-être trouver des incohérences par rapport aux illustrations. Enfin, tout doit être coordonné et l'illustrateur est pratiquement au même niveau que l'auteur pour ne serait-ce que porter le jeu et le faire découvrir et que au moins t'as un plaisir de jeu.
De plus en plus, on voit le nom de l'illustrateur ajouté sur la boîte. Pendant très longtemps, il n'y avait ni auteur ni illustrateur. Depuis au moins 10-15 ans, l'auteur est systématiquement mis sur la boîte. Et en fait, depuis un peu moins longtemps, l'illustrateur est mis en valeur aussi.
On reconnaît aussi la patte de certains illustrateurs. En fait, c'est vrai que parfois, en prenant des boîtes, on dit « Tiens, ça, c'est l'illustrateur qui a fait les deux jeux ». Et c'est vrai que, à force, ça fidélise aussi un peu. Enfin, je pense qu'on aime bien chacun des types de dessins différents. Et du coup, c'est vrai que naturellement, à la limite, même sans connaître l'auteur de jeu, quand on voit l'illustration de la boîte, on se dit tiens, je connais l'illustrateur. Et naturellement, on va se tourner vers cette boîte et on va être intéressé.
Bah, le dernier jeu que j'ai acheté en festival, c'est Nidavellir. Parce que je suis fan du travail de Jean-Marie Minguez. Et que je connaissais pas du tout le jeu. J'avais pas vu le buzz préalable sur les différents réseaux sociaux. J'ai acheté le jeu parce qu'il était présent sur le festival. Je me dis, je veux la dédicace. et il s'avère que le jeu est excellent. Comme quoi, l'impact de l'illustrateur peut avoir un effet sur, pour le coup, sur la vente à Cannes.
Surtout si tu as la dédicace, en plus, après, tu t'en souviens, et du coup, ça reste à vie, j'irai.
Tu n'oses même plus y jouer, tu le laisses avec ce jeu plein de poussière.
À l'époque, je connaissais pas Pierrot du tout, et c'est juste quelques années après où j'ai commencé à m'intéresser aux, entre guillemets, aux vedettes du monde du jeu, que je me suis rendu compte que la première dédicace que j'ai eue sur mon Dice Stone, c'était Pierrot, et je suis assez fier d'avoir une dédicace qui date de cette époque-là.
Après, il faut avouer que Pierrot est un illustrateur qui a été assez mis en avant dans le domaine du jeu de société par rapport à d'autres illustrateurs, mais ça n'empêche que ça soit toujours un acteur quand même assez fort du domaine.
Je crois que c'est lui qui s'est lancé sur Kif Edition. Je pense qu'il est devenu éditeur maintenant.
Ouais, mais il y a une époque où justement, quand la communauté se plaignait de ne pas avoir les illustrateurs mis en avant sur les boîtes de jeux, comme font partie de la naissance, la genèse du jeu, Pierrot, à ce moment-là, avait été bien mis en avant, était ne serait-ce que sur les sites comme Trick Track ou des petites interviews. D'autres illustrateurs n'ont pas eu sa chance, mais ça n'empêche que grâce à lui aussi, les autres illustrateurs ont pu avoir une visibilité et être pris
pour le jeu.
Ouais.
Alors, je vous propose de faire une autre petite coupure musicale. Alors, cette fois-ci, on va faire quelque chose qu'on adore faire dans Heureusement en France. C'est une petite découverte musicale des albums qu'on reçoit à l'entrée de la radio et que personne ne veut écouter. Alors, on se dévoue toujours pour...
Voilà. Chaque émission a son casier et t'as des CD qui passent de casier en casier parce que personne ne veut les passer.
Alors, on avait le CD de Justin Bieber de son nouvel album qui a mystérieusement disparu, donc on ne pourra pas l'écouter.
Il est passé direct à la poubelle, lui.
Mais il n'a pas disparu alors.
Il y a une explication du coup. Mais par contre, personne n'a touché au CD de Sting. Bah alors, les enfants, on va s'écouter.
Parce que j'étais pas là.
C'est ça, t'es trop loin. Alors Sting a sorti, parce qu'il faut bien payer ses impôts, et comme Sting fait une tournée chaque année, bah, il est un peu embêté ces deux dernières années, parce qu'il n'y a plus grand-chose qui rentre. Alors, il a une super idée. Et si je faisais un album avec mes meilleurs duos?
Il s'est même pas embêté à recréer des duos, il a repris tous les duos qu'il avait fait depuis quelques années.
Et il en a sorti quelques-uns qui étaient un peu frais. Alors, on a du lourd, hein. J'ai notamment Julio Iglesias.
J'ai cru que tu allais parler de Mylène Farmer.
Tu n'as pas parlé. Il a beaucoup chanté avec des Français, Charles Aznavour, Mylène Farmer et compagnie. Mais...
Charles Aznavour est dans l'album, si tu veux, Dominique, on en écoute tout à l'heure. Alors, je vous propose, forcément, on aime bien Julio Iglesias dans l'émission, donc on va être obligé d'en passer un peu. Ça va, c'est une belle chanson, cette fois-ci qui était composée par Sting, qui s'appelle Fragile. We are. C'était Sting en duo avec Julio Iglesias avec la chanson Fragile, sortie pour l'album qui est tout frais, tout chaud, sorti du four, qui s'appelle Duets, qui reprend tous ces magnifiques duos, y compris avec Mylène Farmer.
C'est ce qu'on appelle un pot pourri, c'est ça?
Un pot bien pourri, d'ailleurs.
Si on
t'anime le mot pot.
En fin d'émission, je préfère écouter son duo avec Eric Clapton, quand même.
Ben non, tout le monde l'a entendu. Alors, est-ce que tu connaissais cette version avec Julio Iglesias? Non.
Donc, pas du tout.
On va s'écouter que des belles découvertes dans l'émission.
J'espère juste que Sylvain est encore avec nous après avoir entendu ça.
Sylvain.
C'est bon,
es-tu toujours,
bon,
là?
Oui.
Alors, on parlait du salon Ludinor, mais quel est ton rôle dans ce salon qui, en maintenant, a tellement d'adhérents que je pense que tout le monde a une tâche assez spécifique?
Mon rôle, il a évolué en fonction des années. J'ai été coordinateur de Ludinor pendant 3 ans. Puis, on a créé la Fée des Jeux. Alors, ouais, on n'a pas parlé de la Fée des Jeux, mais on a créé la Fée des Jeux. C'est une fédération d'associations des Hauts-de-France, parce que le festival devenait tellement grand que seule l'Étoile du Jeu ne pouvait pas porter, de manière responsable et de manière économique, l'événement.
Alors, l'Étoile du Jeu, c'est l'association ludique qui est située à Mont-Saint-Barreul.
Donc. Exactement, qui est à l'origine de l'événement. Ouais. Donc, on a créé la Fée des Jeux en 2014. J'en suis devenu président. Donc, je me suis mis un peu en retrait de l'Ludinor pour donner un peu vie à la Fédé, réussir à recruter de nouvelles associations, tout en gardant un pied un peu dans la partie communication. J'ai arrêté en 2018 parce que j'avais un projet de café ludique sur l'île, donc je voulais pas mélanger les deux aspects pro et associatif. Et comme le projet pro s'est arrêté, je suis revenu à mes premières amours et j'ai repris la coordination pour ce qui devait être le Ludinor de la reprise, Ludinor 2021. Donc, le principe de coordination, c'est on est normalement 4 coordinateurs à piloter différents groupes. Donc, on a un peu comme dans un fonctionnement comme dans une PME. Donc, on a une sorte de comité directeur qui vérifie que les différents groupes font bien avancer tous les sujets et qu'on arrivera à la date avec tout prêt. Donc ça, c'est ça un peu le...
En gros, il y a plein de gens qui courent partout avec des questions et des problèmes, et toi, tu dois répondre aux questions et résoudre des problèmes.
Oui, c'est ça, c'est assez arbitré. Après, les groupes, ils ont leur autonomie, ils ont leur expérience, ils ont tout ce qu'il faut pour aussi avancer. Enfin, c'est le job de coordinateur. Alors, j'ai pas eu le temps de m'y remettre complètement. Donc, je pense que les derniers coordinateurs vont me haïr si je... Peut-être que j'ai tort, parce que du coup, j'ai pas pu rebaigner dedans. Mais ça a l'air d'être un peu plus facile dans la mesure où on est un peu mieux accompagné, qu'on a mis plein d'outils en place pour simplifier la tâche de tout le monde. On a fait du développement maison, donc on n'a même pas fait appel à des... Ni on n'a pas eu besoin d'acheter d'outils extérieurs, enfin, globalement.
On bénéficie de l'expérience des salons précédents, quand même.
Ah ben complètement. À chaque fois, on essaie de détecter... quel était le point qui était déconné. Bon, ben, peut-être qu'on peut faire quelque chose là-dessus. Une année, c'était des files en restauration qui étaient beaucoup trop longues. On s'est rendu compte que la prise de commande était un point noir. Et donc, on a développé une application sur tablette pour saisir rapidement les commandes des gens et que ça s'affiche en cuisine pour que les gens sachent ce qu'il faut préparer. Effectivement, on tire de notre expérience les bons curseurs pour améliorer.
Vous devriez vendre la solution à d'autres salons. Ça ferait une petite rentrée d'argent.
Alors, on n'est pas dans l'optique de vendre.
Ouais, je sais bien.
Mais on fait bénéficier, déjà à l'échelle régionale, au niveau, un des intérêts de la Fédé Jeux, c'est que pour les assos qui sont membres de la Fédé Jeux, lorsqu'elles organisent leurs événements, elles bénéficient aussi de tout le matériel qu'on achète pour l'Udinor, qui sert qu'une fois dans l'année, qui est stocké dans un endroit secret. Et donc, les assos de la Fédé Jeux peuvent demander à la Fédé Jeux de prêter ce matériel-là. Donc, ce qui fait que c'est toutes des assos qui n'ont pas besoin de mettre en place un budget ou location ou achat pour des nappes, pour des cafetières, pour potentiellement des terminaux de carte bleue. Enfin, tout l'équipement qu'on a à disposition, qui dort pendant un an et qui sert qu'une fois par an, ben ça, on le met à disposition de l'ensemble des assos de Hauts-de-France.
Est-ce que les jeux sont compris dans ce matériel ?
Alors, les jeux, ils ont un traitement particulier. À l'issue du Dinor, en fait, ils sont répartis en partie pour des bénévoles. Par tirage au sort, parce qu'on n'a pas assez de jeux pour tous les bénévoles. Par tirage au sort, on a une partie des jeux qui repartent dans les assos de la Fédé et les assos qui sont partenaires. Et enfin, on a un dernier lot de jeux qui sont donnés à soit des centres sociaux, ça arrive qu'on donne à des écoles, à des hôpitaux, enfin des institutions qui vont savoir quoi faire de ces jeux et les utiliser à bon escient. Ce qui fait qu'au final, la Fédé Jeux n'a quasiment pas de jeux en son nom propre. Les quelques jeux qu'on a au nom de la Fédé, c'est des jeux géants qu'on ne prêtera pas, enfin qu'on n'a pas intérêt à donner quoi. On a Méga Civilisation, on a un Takenoko géant, enfin il y a des jeux qu'on a achetés en version géante qu'on prête aux assos mais qui vont rester à la possession de la Fédé.
Et est-ce que tu as constaté plus de sponsors dans l'événement, puis aussi plus d'associations pardon qui du coup ont adhéré à Fédé Jeux depuis le temps ?
Alors depuis que Xavier a repris la main sur la Fédé Jeux, on a constaté une explosion du nombre d'adhésions. Alors je ne vais pas le prendre pour moi, mais ça n'empêche qu'on doit avoir atteint la vingtaine d'associations membres de la Fédé Jeux. Quasiment, elles sont toutes dans le Nord ou en Pas-de-Calais. On essaie d'avoir quelques assos en Picardie, puisque on fait partie de la même région, quoi. Et au niveau des sponsors, un des trucs qui aide pas mal pour avoir des sponsors, c'est d'avoir des sponsors. C'est-à-dire que là où je veux en venir, c'est que l'année où on a réussi à contractualiser un partenariat avec RTL2, le fait d'afficher RTL2 auprès de d'autres potentiels sponsors, ça nous a ouvert des portes. C'est-à-dire qu'on est devenu sérieux, on est devenu plus crédible.
D'accord.
De fait, à partir du moment où tu arrives à choper d'autres partenariats, bah, tu deviens de plus en plus crédible vis-à-vis d'autres partenaires. Donc, tu as une sorte d'effet de boule de neige qui est intéressante là-dessus.
Comme si tu avais marqué vu à la télé, quoi. C'est direct.
C'est un peu le même principe, ouais.
Et donc, même des sponsors qui sont finalement très éloignés du monde du jeu.
Oui, des fois, ça va loin. Alors, généralement, les sponsors, ils sont liés aux besoins du festival. Typiquement, on a ATF qui nous loue tout ce qui est chapiteaux et installations temporaires à un tarif très attractif, donc on les met forcément en avant. Donc ils ne sont pas en lien avec le monde du jeu directement, ils sont plus en lien avec le monde de l'événementiel. Mais du coup, on va les mettre en avant. Il y a pas mal de structures qui viennent nous aider à pouvoir organiser l'événement. Il y a des fois où ils ne payent pas pour la visibilité, il nous file des moyens de pouvoir y arriver.
Oui, c'est le genre de choses auxquelles on pense pas, parce que quand un festival comme ça n'a pas lieu, bah, y a aussi tous les gens derrière, les fournisseurs, les gens qui préparent, qui prêtent le matériel, etc. Au niveau de l'événementiel, ces deux années vont être absolument terribles.
Bah, surtout pour l'édition 2020, je suppose, puisqu'elle a été quand même annulée assez rapidement. Je pense qu'il y avait déjà une grosse préparation qui avait été faite. Je pense même que vous étiez sur le point de finaliser les derniers préparatifs du Festival du Dinor à ce moment-là, pour l'édition de 2020.
Alors, en 2020, on réunit le conseil d'administration, je crois, début mars. Donc, on doit être entre 10 et 15 jours de la date du confinement. Et clairement, je ne sais pas si tout le monde se remet à cette situation-là, mais je pense que c'est au retour du Festival de Cannes Donc ça doit être dans la semaine après le Festival de Cannes. Donc, le Festival de Cannes a lieu. Et dans cette semaine-là qu'on organise notre conseil d'administration exceptionnel pour décider de on y va ou on n'y va pas. C'est compliqué de revenir d'un festival qui a fonctionné normalement, où il n'y a aucun masque, aucun gel hydroalcoolique qui est diffusé, enfin bref, il n'y a rien en termes de sécurité, et te dire, là, vu comme ça évolue, ça va être compliqué, nous, de faire quelque chose. Et ce qui est bien, c'est que le travail a été bien préparé pour nous amener à une conclusion qui était obligatoire, qui était d'annuler l'événement en 2020, parce que, justement, on avait quoi engagé environ 30% de notre budget. Mais sur la semaine qui suivait, on allait enclencher quasiment les 70% restants.
Alors ça représente oui. Déjà 30%, ce qui peut être énorme, surtout pour un domaine associatif. Et c'est ce qui impacte, mine de rien, plusieurs associations qui ont l'habitude comme ça de préparer des festivals ou même des événements. Ça les impacte, mine de rien, gravement. Et on se doute qu'il y aura certaines éditions d'événements qu'on a l'habitude de faire chaque année qui vont peut-être disparaître du coup.
C'est probable. Alors nous, on a la chance, entre guillemets, de reposer sur une équipe 100% bénévole, donc on n'a pas de salariés, mais on n'a pas ces problématiques-là de devoir payer des gens. Ça, c'est une première chose. Ensuite, sur les 30% qu'on a engagés, on a réussi, comme on a des bons contacts avec nos partenaires, je veux dire, c'est bon état d'esprit qu'on a au sein de l'organisation, croyez-le bien, on a mis la même chose comme avec nos partenaires, et donc tous les frais qu'on a engagés sont pas coulés en perdu. Puis il y a des choses qu'on a payées en 2020 et qu'on utilisera en 2022. Donc, on parlait au début de l'émission des gobelets. Les gobelets, les t-shirts, on les avait imprimés. Enfin, je dirais, c'était déjà... Voilà, ils sont là. Ben, ils vont attendre 2022 seulement. Donc, on n'a pas perdu tant d'argent que ça. La plus grosse crainte, elle n'est pas forcément économique. Elle est plutôt dans les cerveaux des gens. C'est-à-dire que ben forcément, est-ce qu'il y a des gens qui étaient sur au bout de 11 années, 12 années de participation à l'Udinor, certaines personnes ben veulent juste céder la place à la relève. Et le problème, c'est que du coup, cette relève-là, ben va falloir réussir à la créer dans un univers où potentiellement les gens n'ont jamais vu que l'Udinor. Ce passage de relais, il va être compliqué à faire, parce que d'une part, au niveau de l'organisation, on va se retrouver avec des gens qui potentiellement justement ne connaissent pas l'Udinor. Il faut savoir que pour 2021. Il y avait à peu près la moitié des organisateurs qui étaient noobs sur le sujet. Quoi. Enfin, et pour certains, ils n'avaient jamais mis les pieds à l'Udinor. Du coup, On compte sur les anciens pour transmettre les informations qu'ils ont, transmettre ce bon état d'esprit. Et là, le fait qu'on ait annulé 2021, bah, ça va repousser encore à plus loin cette transmission de connaissances. Donc, la problématique majeure qu'on va avoir à gérer, ça sera celle-là. Ça sera de réussir à faire en sorte qu'on ait une organisation qui soit rodée, parce que côté public, par contre, eux, ils vont nous attendre comme si c'était rien passé pendant 3 ans. Quoi. Enfin, je veux dire, Donc, les 11 000 personnes qui sont venues en 2019, ben, elles vont revenir en 2022, si tout se passe bien, hein, si on retrouve un... Elles vont revenir en 2022 avec un esprit en disant « Je sais ce qui se passe à l'Udinor, ben, nous, il va falloir qu'on sache refaire. »
Surtout que les gens n'ont aucune envie, c'est de sortir et de s'amuser et de se changer la tête. Donc oui, l'attente sera très, très élevée.
Justement, on peut peut-être parler de la ruche ludique. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment c'est né et ce que c'est ?
Bah, du moment où on a dû annuler et qu'on a vu qu'il y a eu derrière toute une salve d'annulations de festivals pendant l'année 2020, donc tous les organisateurs de festivals se sont retrouvés de facto à l'arrêt. Il y avait une petite idée qui germait dans la tête de Xavier, donc le président de la Fédé.
Il nous en va parler justement en scoop lors de l'émission où il était venu l'année dernière.
Il avait donc une petite idée derrière la tête qui était d'essayer de synchroniser entre festivals pour se donner ben, quels sont les bons et les mauvais plans de chacun des festivals et s'entraider et essayer de... Et vu que tout le monde était passé à l'arrêt, c'était la bonne occasion parce que avant, ça pouvait se faire, mais à chaque fois, il y avait toujours un ou deux festivals qui disent « Oh là là, mon festival est dans un mois, j'ai d'autres choses à fouetter. On en reparle, si tu veux, quand mon festival est fini. » Sauf que une fois que son festival a fini, ben, il y a un autre festival qui, lui, doit... Enfin bref, on était toujours plus ou moins... Il y avait toujours au moins un tiers qui était la tête sous l'eau. De fait, on s'est retrouvés tous dispo. Et du coup, on a pas mal échangé. On s'est découvert les uns les autres sur les modes de fonctionnement, sur différents types de fonctionnement. Et on a chacun nos trucs et astuces. Et je pense que ça, c'est les bons aspects de l'arrêt. c'est qu'on va pouvoir redémarrer en sachant qu'il y a des compétences en plus, plus loin que juste notre pool de bénévoles. Par exemple, on est dans le réseau donc, qui s'appelle La Ruche Ludique, il y a notamment le Bruxelles Game Festival, qui va essayer de redémarrer cette année en août. On leur a déjà dit, s'il faut un coup de main pour redémarrer l'édition, on sera là pour donner un coup de main.
Ils ont avantage, c'est que c'est pratiquement uniquement en plein air, le BGF.
Alors, ils ont cet avantage-là, mais il y a des infos qui circulent qui font que l'endroit, le parc où ils sont habitués, ils ont une limitation de visiteurs telle que il n'y aurait pas assez de visiteurs pour que le festival soit rentable. Enfin,
dans le même genre, on peut citer Paris et Ludique qui, pour l'instant, est annoncé maintenu, donc fin juin, et c'est finalement un festival qui se déroule aussi en plein air, donc c'est potentiellement possible, mais bon, on verra bien.
Et il y a l'Alchimie du Jeu à Toulouse qui va fêter ses 20 ans. Dans un mode aussi plein air, alors qu'ils étaient habitués à être au parc des expositions à Toulouse, et qui, donc, de fait, ne pourront pas l'utiliser. Normalement, il devrait quand même y avoir une édition du Flip appartenait, mais par contre, on ne sait pas encore dans quelle mesure non plus. Enfin, de toute façon, personne ne sait vraiment dans quelle mesure. Les deux seuls festivals qui ont pu être maintenus en France après confinement, de ma connaissance, hein, c'est Orléans-Joux qui a eu lieu fin août, et Vichy, qui a lieu courant fin septembre. Et c'est les deux seuls qui ont annoncé déjà leur tenue cette année. Apparemment, il y a un microclimat sanitaire entre Orléans et Vichy. Tant mieux que ça puisse se faire. Ça entretient la flamme.
L'un des gros écueils pour les salons style le BGF, c'est que Paris le dit, c'est qu'il y a des gens qui viennent de l'étranger. Et là, effectivement, ça peut être contre des festivals franco-français, on va dire. C'est les déplacements des auteurs, des visiteurs et des créateurs.
En tout cas, ce qui est cool, c'est qu'on a pu monter cette. Alors, c'est pas une structure c'est pas une association Lodi 1901, quoi. Mais... En tout cas, c'est un regroupement de festivals et je trouve ça bien. On apprend à se connaître, tout ça. Ça met là aussi un peu de baume au cœur de se dire bon, on n'est pas tous seuls dans la galère et on est plusieurs et qu'on peut s'entraider et qu'on redémarrera dès qu'on pourra redémarrer, quoi.
Et quand on peut pas faire des festivals en physique, on fait des festivals en ligne. Il y en a eu beaucoup cette année, en jeux de société, en jeux de rôle, etc. Du coup, cette année, on a un droit à un R Ludinor, c'est bien ça?
C'est ça, oui. Ouais. On a commencé, dès qu'on a annulé l'édition présidentielle, on s'est renommé Cordo R Ludinor, puisque forcément, il n'y aura pas un vrai Ludinor derrière. Ça s'est joué jeudi dernier sur la chaîne Twitch d'Entre Joueurs, sur laquelle on a pu découvrir la première extension de Trek 12. Donc, au moins, on a pu avoir une petite exclue. Hier soir, ça a joué au jeu de rôle sur Discord. Et puis, il y a eu aussi une soirée entre bénévoles aussi sur Discord. Donc, on a invité tous les bénévoles présents et passés à venir jouer. Alors, il y a plein d'outils qui permettent de pouvoir jouer en ligne. En l'occurrence, il y a le plus connu, c'est Borgham Arena là, qui vient d'être acheté par Asmodée. Et d'autres jeux, il y a des simili dessiner c'est gagner ou esquisser qui ont bien percé aussi dans le jeu en ligne, mais qui sont des dérivés de jeux de plateau. Donc il y a de quoi faire. On ne peut pas pousser du pion, mais on n'est pas loin quand même. On garde le bon esprit, on peut encore se... taquiner tout ça mais du coup c'est par audio, c'est pas en vrai.
Et parmi les choses qui sont maintenues cette année, il y a toujours le concours de proto qui existe. Alors je sais pas depuis quelle édition à Ludinor.
Alors on a des prototypes depuis la toute première édition de Ludinor, c'est-à-dire que la création de jeu, elle fait partie de l'ADN du festival. C'est pour ça qu'on a toujours conservé festival du jeu et de la création. Donc c'est un on a commencé à créer un vrai concours en 2012. Et en fait, la particularité, c'est que le jeu a été primé par les visiteurs. C'est-à-dire que c'est les visiteurs qui se rendent sur les tables de prototypes et qui vont voter pour celui qui leur a le plus plu. Sachant que sur le week-end, c'est compliqué de jouer à l'ensemble de la sélection. En fait, à chaque fois qu'ils vont jouer sur une table d'un auteur, l'auteur va mettre un petit coup de tampon qui lui est propre pour montrer qu'il a joué au jeu. Et en fait, plus le visiteur a joué à des jeux, plus son vote a de poids dans la sélection finale. Donc, on fonctionnait comme ça. Depuis assez longtemps, on a cette année donc Jérôme et François qui s'occupent du groupe créateur ont trouvé une nouvelle formule où en fait on a fait la sélection des protos classiquement, c'est-à-dire que tous les ans, on reçoit environ 150 dossiers. Donc, cette année, c'est 165 dossiers. On épluche de manière anonyme. Donc, il y a des jurys qui vont lire les règles sans savoir qui les a écrites. Et après, derrière, ils débattent pour savoir quels sont les jeux qui vont être normalement sur des tables à Ludinor. Mais là, pour le coup, c'était pas sur des tables virtuelles. Mais... Donc, on a fait une sélection parmi ces 165 jeux initiaux. On a fait une sélection et il n'y avait plus que 25 jeux. Si on voulait imager par rapport à un vrai Ludinor, bah, en fait, il y en aurait eu une petite partie dans l'espace stratégie, une petite partie sur l'espace famille et puis une toute petite partie pour l'espace enfant.
On en a parlé la semaine dernière, effectivement, il y a 10 jeux stratégie, 10 jeux famille, 5 jeux enfants.
Cette année, c'est un jury de professionnels qui a désigné qui gagnerait les prix Ludinor. Parce qu'évidemment, il n'était pas possible de faire jouer le public, ou en tout cas dans un nombre suffisant pour vraiment avoir le niveau de granularité du vote suffisant pour dire ce jeu-là est vraiment le meilleur de tous. Donc c'est un jury de professionnels qui se sont réunis sur Discord le week-end du 14 mars pour désigner qui sont les vainqueurs. Et normalement, on l'a révélé.
Justement, l'émission est enregistrée, mais si vous allez dès maintenant, puisque ça fait une trentaine de minutes, sur le site de la Fée des Jeux, également sur le Facebook de l'édition de Ludinor, vous allez pouvoir voir donc les prototypes qui ont été sélectionnés et également qui ont gagné un prix pour cette édition de 2021. Or, je vous propose d'écouter une autre petite musique et ensuite on parlera rapidement de la vie associative, comment est-ce qu'on joue aux jeux de société actuellement. Alors, on va s'écouter encore du Sting, tiens, avec un duo qu'il a sorti en 2013. Alors, est-ce que vous saviez que Sting avait fait une comédie musicale ?
Pas au courant.
Alors, c'était sur le thème des chantiers navals. Et donc, c'est un disque qui est sorti en 2013. Et en 2014, il y a eu cette comédie musicale. On va s'écouter The Last Ship avec un duo avec Joe Laurie.
Am I asking for the moon? Is it really so implausible that you and I could soon come to some kind of arrangement? I'm not asking for the moon. I've always been a realist when it's really nothing more than a simple rearrangement. With one roof above our heads, a warm house to return to, we could start with separate beds. I could sleep alone or learn to. I'm not suggesting that we'd find some earthly paradise forever. I mean, how often does that happen now? The answer's probably never. But we could come to an arrangement, a practical arrangement, and you could learn to love me, given time.
Well, I like my independence. I get by, I'm not greedy. Do you see yourself as Galahad? Do I really look that needy? I brought a child up on my own. Takes me all my strength to face him. The father upped and left me, and I'm not desperate to replace him. Tell me, what kind of catch is a struggling single mother? I respect you and I like you, but I won't accept another empty promise when some gray and stormy rain cloud hangs above me. When I've heard it all 100 times from a man who said he loved me, but if we came to an arrangement, a practical arrangement, then perhaps I'd learn to love you. Given time,
mm-hmm.
I'm not promising the moon. I'm not promising a rainbow. Just a practical solution to a solitary life. I'd be a father to your boy, a shoulder you could lean on. How bad could it be to be my wife? With one roof above our heads, a warm house to return to, you wouldn't have to cook for me, you wouldn't have to learn to. I'm not suggesting that this proposition here could last forever. I've no intention of deceiving you. You're far too clever. But we could come to an arrangement, a practical arrangement, and perhaps you'd learn to love me. That you had in mind, but you could learn to love me given time.
Voilà, c'était Sting avec Practical Arrangement avec Joe Laurie. Dans cet album qu'on a découvert ensemble, Sting Duet. Nous sommes toujours avec Sylvain Machène, vous êtes sur Radio Campus 106,6 dans l'émission Heureusement en France. On va terminer puisque Sylvain, tu es bien sûr un membre de la Fée des Jeux, donc tu t'y connais forcément en association. Comment est-ce qu'on fait à l'heure actuelle pour jouer aux jeux de société avec ses amis et est-ce qu'on peut encore jouer dans le domaine associatif? D'ailleurs, comment se portent les associations à l'heure actuelle?
Qu'on peut faire quand on est en asso, c'est une asso de jeu, c'est de continuer à maintenir ses créneaux et de jouer. On citait tout à l'heure différentes plateformes, il y a aussi boîte à jeux, hein, c'est qui est fait par des nordistes. Mais au niveau de la vie des assos, il y a pas mal d'assos qui sont quand même mis en stand-by, d'autres qui comme je vous l'expliquais, maintiennent leur canot. Moi, je fais partie de l'association Ch'ti du Dos. Qui est basé au Bourdin, donc ça fait. On a pu se réunir un petit peu pendant l'été quand c'était encore déconfiné. Et dès lors qu'on a, on s'est reconfiné, on se maintient en courant, on maintient l'assaut en vie en se réunissant tous les vendredis soirs. On prend plaisir à débriefer l'actu de la semaine et tout en voilà, en jouant des jeux comme on joue à Diamant, on joue à du Seven Wonders, enfin des choses qui sont assez facilement joué en ligne. Donc,
Parce qu'il faut expliquer que moi aussi je fais partie d'une asso de jeux qui est aussi au Bourdin, mais c'est un hasard, c'est que souvent c'est les communes, c'est les mairies qui décident si on peut se réunir ou pas, quels que soient les types d'asso d'ailleurs, hein, l'association sportive, culturelle et autres, dans les locaux, puisque souvent c'est les mairies qui prêtent les locaux, et tout dépend de là, donc les associations aimeraient bien se réunir, à part 2-3 membres qui se réunissent éventuellement les uns les autres en petit cercle, c'est vraiment pas possible, c'est vraiment indépendant de leur volonté.
C'est plein de contraintes, mais il y a moyen de pallier à ces contraintes.
Oh, on découvre des nouvelles façons de jouer, quand on découvre pas de nouveaux jeux. J'en connais beaucoup qui en profitent pour peindre des figurines. Ils peignent plus de figurines pour leur jeu de stratégie en un an qu'en 20 ans. Ils commencent à manquer de peinture un petit peu. Là. En plus, les magasins ferment, donc c'est ça le plus dur.
C'est ça. Bien sûr, on vous rappelle, hein, si vous voulez jouer aux jeux de société ou même découvrir d'autres activités ludiques, il y a la Fée des Jeux qui va vous permettre de vous orienter vers toutes les associations qui sont présentes dans les Hauts-de-France, hein, majoritairement. On te remercie, Sylvain, d'avoir participé à cette émission.
Bon courage.
On te retrouvera sûrement sur d'autres événements, hein, on espère. Voilà, restez sur Radio Campus. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Heureusement en France. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.
Salut à tous. À plus.
Chers auditeurs, il est 19h, l'heure de retrouver les informations. À demain pour de nouvelles aventures.
Fin de la retransmission.
C'est la meilleure mission que j'ai jamais faite.